Bonjour et bienvenue pour cette sixième émission des Rendez-vous du droit. Au menu de ce jour, la jurisprudence. La jurisprudence qui fait partie, je dirais, des matières premières du juriste. Le juriste travaille avec des textes et lorsqu'il est confronté à une situation, il cherche le texte applicable, il espère en trouver un. Et même s'il en trouve un, ça ne suffit pas. Il faut qu'il en connaisse les interprétations et ces interprétations se trouvent dans la fameuse jurisprudence. Donc tous les juristes travaillent avec cette matière qu'est la jurisprudence et quand ils ont pris un petit peu de bouteille, d'ailleurs ils disent parfois la JP, mais si vous pouvez garder la jurisprudence, c'est plus élégant et ça sonne mieux. Pour évoquer ce sujet difficile, nécessaire, je suis comme d'habitude accompagné de vous, Étienne.
Alors je me présente, Étienne Nédélec, doctorant en cinquième année. Je travaille sur le procès civil et... Dans le droit du procès, comme dans toutes les matières juridiques, nous avons affaire à la jurisprudence. Mais peut-être que le processualiste s'y intéresse aussi d'une autre manière, en ce qu'il voit dans chaque décision, peu importe la matière, du moment que ça parle, en l'occurrence pour la procédure civile, de la matière civile, il voit aussi le produit de certaines règles imposées au titre de la procédure. Donc le travail du juge est toujours contraint et parfois favorisé par les règles de procédure, et je m'intéresse à ces questions-là.
Et vous, Antoine ?
Bonjour à tous. Je suis donc Antoine Nachim, je suis doctorant toujours en quatrième année de thèse en droit des contrats et je travaille sur l'intérêt du contractant. Alors si on devait rattacher ce sujet évidemment de la jurisprudence, en réalité il se rattache à toutes les thèses, disons-le, quasiment en tout cas, c'est que finalement, dans beaucoup de litiges, le juge va être confronté aux intérêts concrets et réels des parties dans la vie de tous les jours. Et bien souvent, en fait, on va voir que l'étude de ces intérêts va influencer les raisonnements juridiques et, de manière générale, la science du droit qui n'est pas directement bâtie sur cet intérêt.
Eh bien, merci beaucoup. Alors, l'objectif d'aujourd'hui est de vous montrer, je dirais, deux choses, à la fois l'absolue nécessité de la jurisprudence et en même temps toutes les difficultés que charrie cet instrument qui est si nécessaire aux juristes. Naturellement, la première étape est une étape de découverte et nous allons répondre aux questions que vous vous posez. Première question, toute bête, c'est quoi la jurisprudence ? Antoine ?
De manière extrêmement simple, je crois qu'on peut d'abord commencer par définir la jurisprudence comme l'ensemble des décisions de justice. Quand vous disiez tout à l'heure ce qu'on essayait de dire comme étant la JP, ce qu'on regarde quand on dit « allons regarder dans la jurisprudence », c'est « allons regarder dans l'ensemble de ces décisions ». Bon, c'est vraiment la toute première définition vraiment radépacrète qu'on pourrait donner.
Alors, non, elle n'est pas radépacrète, mais est-ce que du coup, quand nous disons... Quand le juriste professionnel, celui que vous allez devenir, dit « je vais examiner la jurisprudence », est-ce que sur chaque question, il examine toutes les décisions de justice ou est-ce qu'il recherche quelque chose d'un peu plus précis qui serait le second sens de la jurisprudence ?
Justement, en fait, il n'y a pas qu'un critère quantitatif dans cet ensemble de décisions. Il y a aussi évidemment un critère qualitatif. Substantiel, si on a envie, on pourrait le dire de cette manière, c'est que simplement pour qu'une décision fasse jurisprudence, il faut au moins qu'elle soit répétée un certain nombre de fois et qu'elle ait une forme de permanence. Et encore, je ne pense pas que ce soit le seul...
Oui, ce qui veut dire que ce que nous désignons comme la jurisprudence, c'est bien en fait l'ensemble des propositions générales que les juges émettent et qui, émises à l'occasion d'une décision, peuvent éventuellement servir dans une autre. Mais c'est ça que nous considérons. Ce sont les généralités du juge qui font la jurisprudence dont nous parlons quand nous disons la jurisprudence. C'est le. Alors d'ailleurs, on dit aussi, pour évoquer le pouvoir du juge de créer de la jurisprudence, de faire de la jurisprudence, on utilise cette expression, Étienne, de pouvoir prétorien.
Exactement.
C'est une expression qu'on utilise, hein, c'est pas pour faire joli, ça veut dire pourquoi on utilise cette expression, et vous allez nous le dire doctement.
Alors, doctement, ça viendra peut-être après, mais pour l'instant, le droit prétorien, ça vient en fait de l'édit du préteur. Le préteur, c'est qui ? C'est un magistrat romain qui est créé en fait en 367 avant Jésus-Christ, et qui d'abord, il y a différentes procédures dans la... dans le droit romain, mais pour la procédure des actions de la loi et puis pour la procédure formulaire qui, à chaque début d'année, faisait un édit, l'édit du prêteur, qui comprenait la liste de toutes les actions qui seraient ouvertes et qu'on pourrait intenter grâce à cette liste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut bien dire, en fait, pour reprendre ce que disaient mes voisins, qu'il y a un côté organique de la création de la jurisprudence et que cette capacité à créer une norme générale, là, en l'occurrence, était le fait d'un juge. Le magistrat, le prêteur, comme aujourd'hui elle peut l'être de la Cour de cassation.
Voilà, donc le pouvoir prétorien, parce que le juge a cette capacité à dire de la norme générale, même s'il n'est pas tout à fait législateur. Oui, alors, question que sans doute vous vous posez, en tout cas qu'on s'est posé pour vous, mais dans la presse, on entend toujours les journalistes dire « mais voilà une décision qui fera peut-être jurisprudence ». Alors, est-ce que c'est une expression de journaliste qui, finalement, est peu précise scientifiquement, ou est-ce que, finalement, pour nous, juristes, ça veut dire quelque chose ? Je suis sûr que l'un de vous deux a son opinion sur la question. Alors, bon, on va jouer. Non, mais allez-y.
Je pense qu'en fait, l'expression peut s'entendre chez les journalistes et chez les juristes sans qu'elle ait, en fait, en réalité, exactement le même sens. C'est-à-dire que chez les journalistes, l'idée de faire jurisprudence, c'est peut-être plus l'idée qu'une décision, qu'elle soit du premier degré de juridiction, puisse faire des émules. C'est un exemple qu'on a eu avec les barèmes Macron, on y revient souvent.
Oui,
mais
l'actualité, bon, alors en plus, c'est un bon exemple.
Donc voilà. Les barèmes, pour rappeler rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est l'idée que on mettait un plafond de réparation à la suite des licenciements. Donc le licenciement était plafonné en fonction d'une certaine ancienneté dans l'entreprise. Et certains conseils des prud'hommes, c'est-à-dire les juridictions compétentes en matière sociale, en matière de droit du travail, ont vu une atteinte notamment à la convention 158 de l'OIT qui prévoit une réparation intégrale du préjudice lié au licenciement.
Alors, donc ça veut dire faire jurisprudence pour journaliste, c'est je fais des émules, voilà. Mais est-ce que pour le juriste, ça veut dire un peu plus ? Est-ce que d'abord, ça veut dire quelque chose pour le juriste, autre chose que faire des émules, ce qui est une expression pour les médias. Est-ce que le juriste peut entendre cette expression comme une expression qui veut dire quelque chose, mais qui est plus précise pour le juriste que faire des émules ?
Pour le juriste, on peut entendre l'idée de faire jurisprudence, mais ça sera généralement venant de la juridiction supérieure de l'ordre judiciaire, pour la Cour de cassation, j'entends, ou parfois pour les autres juridictions supérieures. Et ça sera plutôt l'idée de fixer la jurisprudence pour l'avenir. Donc ça sera une formulation un peu plus générale et abstraite que la décision d'une juridiction de premier degré fera jurisprudence, sera reprise ensuite par d'autres juridictions. Donc le juriste aussi...
Antoine, quelque chose à ajouter ?
Il y a peut-être une seule chose à rajouter, selon moi, c'était qu'en fonction de la juridiction qui rend la décision, il va y avoir une intensité plus ou moins grande de ce qu'on pourra dire comme étant la force normative de la décision. Si c'est pour la Cour de cassation, certes, elle a évidemment, comme le disait très justement Étienne, elle aura...
C'est vous qui le dites.
Oui, c'est vrai que c'est vous qui le dites.
Tout va très bien.
Bien sûr. Et effectivement, on aura ici une force normative plus grande que lorsque ce sont les juges du fond qui rendent la décision, effectivement. Mais par exemple, dans le cadre du Conseil constitutionnel,
Alors, on passe. Premièrement, un premier juge de première instance, sa décision peut faire jurisprudence en ce sens que peut-être elle fera jurisprudence si elle est finalement confirmée au plus haut niveau de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation. Première instance, Cour d'appel, ça peut faire jurisprudence, mais ce qui est important, c'est que ça peut. Voilà, c'est pas sûr que ça le soit un jour, ce sera de la jurisprudence finalement si la Cour de cassation consacre ce que ces juges de première instance, ces juges du fond, auront énoncé en termes généraux, en termes abstraits et généraux, avec plus ou moins d'audace. Après, effectivement, on a la difficulté qui est quid de la jurisprudence qui est au-dessus de la jurisprudence de la Cour de cassation, jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Et là, justement, ouais. Par rapport à cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, on se dit, étant donné que les décisions du Conseil constitutionnel ont autorité absolue de la chose jugée, elles vont s'imposer à tous et elles ne tranchent pas simplement que le litige.
L'autorité absolue de la chose jugée, c'est pas là, je suis pas sûr que tout le monde comprenne.
Alors, ça veut simplement dire que la décision du Conseil constitutionnel va s'imposer, mais pas simplement entre les parties au litige, mais simplement à l'égard de tout le monde.
Ceux qui auraient soumis la QPC.
Voilà, exactement, là ici. Et donc, cette décision s'imposant à tout le monde, nécessairement, une décision du Conseil constitutionnel fera jurisprudence plus facilement, si on veut, qu'une décision de la Cour de cassation qui, véritablement, doit être répétée à différents litiges.
Oui, alors, il peut y avoir quand même une décision de la Cour de cassation qui est rendue de manière solennelle, soit par une formation solennelle des chambres, soit par un arrêt de chambre mixte, soit un arrêt d'assemblée plénière qui va fixer une solution dont on peut imaginer qu'elle va se répéter de manière avec une certaine pérennité. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'après, voilà, la jurisprudence du Conseil constitutionnel va quand même s'imposer au-dessus, exactement comme la norme constitutionnelle s'impose à la norme législative. Et pareil pour la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'imposera à la jurisprudence de la Cour de cassation. En fait, on peut dire que le seuil de déclenchement de la jurisprudence, c'est finalement une décision de la Cour de cassation. Oui, alors dans les choses qu'on dit aussi sur la jurisprudence, on dit avec une certaine facilité, parfois j'aurais peut-être un peu de désinvolture, la jurisprudence est rétroactive. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Étienne, Antoine?
En fait, c'est assez simple, finalement. C'est cette idée que lorsque le juge va se prononcer, il se prononce, donc à l'instant T, il se prononce nécessairement sur des faits qui se sont passés il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Enfin, en tout cas, à témoin, comme on veut. Et donc, nécessairement, elle va s'appliquer à une situation qui est antérieure. De là, on peut dire que la jurisprudence est par nature rétroactive, simplement par le fait qu'elle s'applique à des faits qui lui sont antérieurs.
Et comme la proposition générale d'interprétation que le juge a formulée est susceptible de valoir dans une autre affaire, où les faits se seront également produits à T-1, T-2, T-3, la jurisprudence, la norme telle qu'elle a été interprétée en jurisprudence, l'interprétation que la jurisprudence donne de la norme s'appliquera rétroactivement. Voilà, c'est un peu compliqué à dire, mais c'est du droit. Et comme c'est compliqué à dire, la jurisprudence, c'est compliqué à décrypter. Il y a des gens qui font ce travail, et ces gens sont réunis, ces professionnels, sont réunis sous une bannière qu'on appelle la doctrine. Et alors c'est un peu marrant parce qu'on a un peu l'impression qu'on passe de la faculté de droit à la faculté de théologie quand on explique que les universitaires dans les facultés de droit font de la doctrine. D'où vient ce mot doctrine ?
Alors, ça vient des fameux doctes, d'enseigner doctement, ça vient de doctus. Qui est celui qui sait, qui est le docte. Et ça a donné aussi enseigner, en latin, c'était docere. Donc ça a donné aussi les docteurs. Les docteurs ont été, pendant longtemps, notamment au XIIe siècle, dans le droit romano-canonique, qui est un peu le droit savant par excellence, qui est d'ailleurs le droit savant par excellence, la place des docteurs, notamment à l'université, puisque c'est aussi la naissance des universités, à Bologne, à Paris, à Montpellier, la place des docteurs est quasiment celle du législateur, puisque c'est eux qui font apparaître le droit. Le législateur n'existe pas en tant que tel, en tant que ce que nous on entend par législateur, c'est alors le monarque, mais les docteurs sont vraiment la force créatrice, pourrait-on dire, du droit, à travers leur enseignement. Et c'est...
Oui, donc alors, ce qui veut dire que les choses ont quand même un petit peu changé, en ce sens que c'est plus les docteurs qui font absolument tout le droit, mais il est certain que... le rôle demeure par rapport à la jurisprudence, en ce sens que ce sont les docteurs qui vont finalement faire parler les décisions et qui vont identifier dans les décisions de justice celles qui font jurisprudence et quelle jurisprudence il en ressort. Alors, il reste quelque chose de ce que vous disiez au-delà de la jurisprudence, et c'est ce que vous avez remarqué quand on préparait cette émission, Antoine, et vous disiez quelque chose de très juste.
Tout à fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que, par rapport à ce que développait Étienne, où on a effectivement aujourd'hui encore un rôle de la doctrine qui est très important, mais qui est peut-être moins institutionnel, dans la mesure où ici, la doctrine va beaucoup participer à l'élaboration des normes, notamment dans le cadre de l'élaboration de projets doctrinaux, comme par exemple le projet Terré ou le projet Catala.
Alors, juste pour préciser, précision, Tere Katala, c'est le nom de deux professeurs hein, qui ont existé. L'un est encore parmi nous, fort heureusement. L'autre n'est plus. Ce sont deux professeurs qui ont pris l'initiative, lors de la réforme des contrats, de regrouper autour d'eux un certain nombre de professeurs pour écrire hein, ce que serait le futur droit français des contrats.
Exactement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a un très grand nombre de dispositions qui sont aujourd'hui de la loi, qui proviennent directement ou qui sont très fortement inspirées de ces projets doctrinaux. Donc certes, la doctrine ne joue pas un rôle direct, mais si on regarde factuellement, elle a un rôle extrêmement important.
Non, mais c'est absolument certain que le droit français des contrats tel qu'il est aujourd'hui écrit, est un produit doctrinal, c'est tout. La chancellerie, il y a eu quelques modifications à la marge, mais le texte, dans l'essentiel, est un texte doctrinal, et il est certain que ce qui vaut pour les textes, pour les grands textes en tout cas, vaut certainement pour la jurisprudence. Sans doctrine, eh bien, la jurisprudence, quelque part, ne parle pas. Voilà.
Alors, nous avons fait, je dirais, un bref, inventaire des questions qu'on peut se poser autour de cette chose un peu mystérieuse qu'est la jurisprudence. Essayons maintenant de comprendre la nécessité de cette jurisprudence et rien de mieux que de raisonner à travers une série d'exemples. Venons-en à notre seconde séquence, le droit par l'exemple. La jurisprudence est nécessaire. C'est ce que nous voulons montrer dans cette seconde séquence de l'émission. La jurisprudence est nécessaire parce qu'il faut interpréter les règles. La jurisprudence est nécessaire parce qu'il peut ne pas y avoir de règles. Et la jurisprudence est nécessaire parce que les règles peuvent entrer en conflit les unes avec les autres, notamment parce qu'il existe une hiérarchie des normes. Eh bien, sur ces trois thèmes, il nous faut des juges, et il nous faut des juges qui ne se contentent pas de juger au cas par cas, des juges qui se décident en termes généraux, comme les règles qu'ils appliquent, des juges qui font de la jurisprudence. Alors, première séquence, interpréter la règle, par exemple, ne serait-ce que parce que les mots de la règle méritent une réflexion, une interprétation pour leur donner sens. On a un exemple qui est à la fois simple, mais qui est ô combien parlant, du rôle de la jurisprudence. Étienne, à vous de jouer.
Alors ça, c'est un exemple en droit du travail. Ça sera sur le fait que le licenciement ne doit pas être sans cause réelle et sérieuse. Donc il doit avoir une cause réelle. Sans même évoquer le côté sérieux, arrêtons-nous sur le terme réel.
Et oui, c'est ça qui est intéressant. Parce que...
Cette réalité, elle a des... Elle pose question, puisqu'on a l'impression que c'est un terme évident. Et pour autant, on va voir un petit exemple, raisonner comme la jurisprudence, c'est-à-dire sur des cas, qu'il y a des enjeux majeurs à simplement définir le terme réel. En l'espèce, c'était une femme chargée du ménage dans un grand hôtel qui, malheureusement, était suspectée, vraisemblablement, de voler des pots de confiture qui étaient donnés aux différents clients de l'hôtel. Le problème, c'est qu'on l'a licenciée sur le fondement du vol, sur la faute qui constituait le fait qu'elle volait sur son lieu de travail. Mais ça paraît une cause réelle, alors qu'en réalité...
C'est vrai, en tout cas, voilà, c'est vrai.
C'est vrai, et ça peut justifier le licenciement. Le problème, c'est que, est-ce que c'était véritablement ça qui le justifiait dans la tête de son employeur ? Il semble que non, puisque la cause réelle, au sens de la cause efficiente, celle qui a contraint au licenciement, celle qui amène nécessairement au licenciement, était en réalité qu'elle avait surpris ce dit employeur avec quelqu'un dans l'une des chambres de l'hôtel.
On ne dira pas que l'employeur a été pris les mains dans le pot de confiture, mais
on ne le dira pas.
Non, on ne le dira pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'adjectif réel ne veut pas dire ce qu'on comprend au premier abord. L'adjectif réel ne veut pas dire vrai, il veut dire efficient, c'est que c'est la cause réelle, c'est la cause qui a réellement justifié le licenciement. On voit à travers un exemple, somme toute assez banal, qu'il faut déjà un effort d'analyse. Oui, Étienne, non. Alors, interpréter les mots, on le voit sur un exemple, même le mot réel, il faut l'interpréter, et il faut une jurisprudence pour dire réel s'entend de efficient. Il faut interpréter parce que les mots vieillissent. Antoine, un exemple.
Oui, les mots vieillissent. Si on prend un exemple très célèbre, c'est celui de l'ancien article 1384 alinéa 1er qui portait, disons-le simplement, la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde. Or, en 1804, au moment de l'adoption du Code civil, les choses que l'on a sous sa garde, en réalité, ce sont une liste limitative de choses, les animaux ou les bâtiments qu'on considère qu'on a sous notre garde. Et donc, cette responsabilité du fait des choses, c'est uniquement pour une liste limitative. Dans le très fameux arrêt Teffen, là, ici, la Cour de cassation va avoir une interprétation évolutive de ce terme « chose » pour poser les fondements d'un principe général de responsabilité du fait des choses qui sera ensuite confirmé et précisé dans un arrêt Gendeur qui interviendra un petit peu plus tard. Mais là, ici, on voit bien que le terme « chose » ici est entendu très strictement dans la période de 1804, mais les évolutions, effectivement, et au moins le machinisme, va apporter de nouveaux dommages, et on va se rendre compte qu'il faut avoir une vision plus globale de ce terme « chose ».
Et oui, et la doctrine a joué son rôle dans cette affaire, parce que la jurisprudence n'aurait jamais eu cette audace de donner au texte de 1804 un sens qui n'était pas prévu par ses auteurs, si des docteurs n'avaient pas eu l'idée de concevoir des théories alternatives à la responsabilité pour faute, notamment la théorie des risques, qui consiste à dire que si, par l'utilisation de choses, on crée un risque, il est normal qu'on assume les conséquences des risques que l'on crée. Alors, interpréter encore, parce que le législateur, je dirais presque plus pervers encore, peut introduire des mots dont on sait quelque part qu'ils ne veulent rien dire. C'est un exemple, ce qu'on appelle parfois les standards, c'est-à-dire des mots qu'on ne sait pas définir.
Alors un exemple, par exemple, les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs, donc, c'est un terme que tout le monde connaît, que votre voisin et votre voisine connaissent, pour autant ils ne sont pas forcément juristes, et le juriste va charger ce mot d'un sens particulier. Et le juriste, mais aussi surtout le juge qui est juriste, va, à travers ce côté flou, ce côté indéfini, pouvoir faire évoluer son droit à la suite, parfois contre, à la suite de l'évolution des mœurs dans la société civile. Un exemple très classique en matière de courtage matrimonial, c'est-à-dire le fait de faire appel à une agence matrimoniale, Tinder old school, c'est vraiment l'idée qu'un homme marié, à une époque, ne pouvait pas contracter avec une agence de courtage matrimonial. C'était contraire aux bonnes mœurs, puisqu'il était déjà marié, il ne pouvait pas commencer à chercher une autre compagne. Ou ça marchait d'ailleurs pour les femmes aussi, évidemment, inversement.
Oui, on a aussi le cas de la libéralité, qu'on avait dit, je ne sais pas quel exemple qu'on cite toujours, mais pour maintenir des relations intimes qui étaient jugées comme contraires aux bonnes mœurs et qui ne l'est plus depuis que la Cour de cassation a changé d'avis à cet égard. Alors des standards comme ça, on en a plein. Hein. On a aussi le bon père de famille qui est devenu l'homme raisonnable. Bon, ce sont des choses qu'on a... Mais enfin, voilà des mots qui nous sont donnés par les textes et qui oblige le juge à interpréter, alors, soit donner des directives générales précises, soit quand même à garder cette marge de manœuvre, comme on le voit pour les bonnes mœurs, où là, la notion donnée par le texte est telle qu'elle invite, d'une certaine manière, le juge à ne pas la définir et à garder une ouverture pour permettre justement l'adaptation du texte et l'adaptation des décisions à intervenir à l'évolution des mœurs et de la société. Donc, de la jurisprudence pour interpréter, de la jurisprudence aussi pour combler ce qu'on appelle les lacunes de la loi. Le texte ne dit pas tout et c'est tant mieux. Et du coup, le juge doit prendre l'initiative si certaines questions lui sont posées. Ce que le juge peut faire de manière assez directive en explicitant lui-même un principe et en disant « vu le principe ». Et s'ensuit une règle dont il est l'unique inventeur. On a un exemple bon, qu'on a évoqué, qui est fréquent, mais Antoine,
oui, tu laisses la parole. Oui, c'est l'exemple, merci. C'est l'exemple des troubles anormaux de voisinage. Les troubles anormaux de voisinage ne sont pas prévus par les textes. Alors, on aurait pu se dire que les troubles anormaux de voisinage engendreraient une forme de responsabilité, et donc on les aurait appréhendés sous l'angle de l'ancien article 1382, aujourd'hui 1240. Sauf que ce n'est pas ce qu'a fait la jurisprudence, parce qu'on comprend qu'en réalité, la responsabilité ne convenait pas très bien à cette idée que les relations de voisinage engendraient nécessairement une modification des comportements pour assurer la petite paix sociale dans un quartier. Et finalement, la jurisprudence, indépendamment de tout texte, va retenir et va mettre au visa des décisions qu'elle rend, voilà, pour la Cour de cassation, effectivement, ce principe, vu le principe selon lequel nul ne doit causer autrui un trouble anormal du voisinage. Donc là, si on n'est pas dans un pouvoir créateur...
Oui, c'est le... Et ça, il fallait aussi que la jurisprudence ne pouvait le faire qu'en considération d'une évolution qui est une évolution du monde moderne, qui est l'urbanisation, qui est le fait que, si on dit les choses de manière un peu pessimiste, quand on vit les uns sur les autres, on n'a pas envie de vivre les uns avec les autres, alors que quand on vit très loin les uns des autres, bah, on a envie de se rapprocher. C'est ce qui fait que les urbains passent pour être généralement un peu moins urbains que ne le sont les ruraux, vous m'avez compris. La jurisprudence bon, peut délibérément dire « vu le principe », elle peut aussi en fait inventer des règles en se rattachant à un principe, mais ça revient quasiment au même. Et on a l'exemple assez proche des troubles anormaux de voisinage. Et vous aviez envie de nous parler de l'ineffable Clément Bayard. Étienne, à vous.
Alors, ce cher Clément Bayard, qui était au début du siècle dernier un industriel automobile, quasiment l'équivalent de Citroën, qui avait un dirigeable, un ballon dirigeable. Donc,
aujourd'hui, les PDG ont leur jet privé. À l'époque, début du XXe siècle, ça n'existe pas, mais on a son dirigeable, c'est classe.
Voilà. Un peu moins discret, mais en l'occurrence, puisqu'il fait une quarantaine de mètres, et c'est bien ce qui pose un problème aux voisins de ce cher Clément Bayard, qui en a marre de le voir tout le temps, ça lui cause en plus un peu d'ombre, et qui décide, au nom de son droit de propriété, de mettre des pics sur son terrain, afin... il l'espère, de pouvoir crever peut-être le ballon qui envahirait un petit peu trop son jardin sur son champ personnel, propriété de ce cher voisin. Et là, la Cour de cassation va reconnaître qu'il y a un abus de droit. C'est-à-dire que même quand on a un droit aussi puissant que le droit de propriété de l'article 544 du Code civil, il faut quand même prendre en compte les relations non seulement de bon voisinage, mais aussi l'utilisation qu'on peut avoir de ce droit.
Oui, c'est quand il y a l'intention d'utiliser sa qualité de propriétaire pour nuire au voisin. Donc là, on est dans l'abus de droit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si, alors, sauf erreur, Clément Bayard, c'est le début du XXe et c'est avant la consécration de la théorie des troubles anormaux de voisinage, mais probablement que le voisin de Clément Bayard eût pu, si la théorie avait été formalisée, se prévaloir de la théorie des troubles anormaux de voisinage pour demander à l'excellent Clément Bayard de faire en sorte que son dirigeable occupe un petit peu moins l'espace et ne bouge pas la vue de notre voisin. Mais comme il a choisi de se faire justice à lui-même en plantant ses pieux, on lui a dit « vous abusez de vos droits » et la jurisprudence consacre, sur le fondement de la responsabilité civile, mais cette idée que tout propriétaire qu'on soit et tout titulaire d'un droit qu'on ait, on peut en abuser dès lors qu'on en use dans l'intention de nuire à autrui. Bon, après, ça se complique, mais enfin, voilà également une théorie que la jurisprudence développe et qui vient compléter la règle, qui s'ajoute aux règles. Et puis, autre point de nécessité qui justifie la jurisprudence, c'est le fait que les normes, les règles prolifèrent, qu'il existe une hiérarchie entre ces règles et que les conflits de normes que fait naître cette hiérarchie justifient un arbitrage que fait le juge. Et c'est le troisième justification, en tout cas troisième point qui fait apparaître la nécessité de la jurisprudence. Alors sur les conflits de normes, quelques exemples. Antoine, vous démarrez, Étienne
Oui, je peux démarrer, pas de problème. Okay. Alors c'est un arrêt dont on a déjà discuté, puisque c'est un arrêt sur le contrat nouvelle embauche qu'on a tous fait entêter. Effectivement, dans cet arrêt, la question qui se posait, c'était la question de la conformité de l'ordonnance de 2005 qui prévoyait le contrat nouvelle embauche avec la possibilité pour l'employeur de licencier sans motif, pendant une certaine durée, mais sans motif quand même, donc de la conformité de cette ordonnance instituant le CNE à la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, qui prévoyait que pour tous les membres de cette convention internationale, les licenciements devaient toujours intervenir avec un motif valable. C'était effectivement ce qu'on avait dans cette convention. Et donc, se poser cette question, et le juge, évidemment, pour trancher sur la conformité, est obligé de régler ce conflit entre les normes. Et comment il règle ce conflit de normes ici? Évidemment, en jugeant qu'entre sans motif et motif valable, il y a évidemment une contradiction indépassable.
Oui, et on a eu aussi l'exemple des transsexuels la question s'est reposée d'ailleurs un petit peu de la même manière sur d'autres sujets, mais qu'est-ce qui s'est passé au début des années 90 ?
Alors l'état du droit français et de la loi française en matière de transsexualisme, c'était qu'on autorisait à ce qu'ils changent de prénom, mais pas à ce qu'ils changent de sexe à l'état civil, ce qui obligeait et ce qui mettait dans des situations très inconfortables les personnes se revendiquant d'un sexe qui n'était pas celui qui étaient inscrits sur leur carte d'identité ou simplement à leur état civil. Donc là, on avait cette situation très compliquée et on a invoqué l'article 8 de la Convention européenne qui protège le droit au respect à la vie privée, puisque là, on voyait quand même tout de suite le conflit qui pouvait exister dans cette manière de rendre très inconfortable la vie de ces personnes. Et donc, la difficulté a été d'articuler cela et les juges ont fait prévaloir l'article 8 de la Convention européenne en reconnaissant qu'au nom du droit au respect à la vie privée, on pouvait engager un changement de sexe à l'état civil et que l'indisponibilité de l'état des personnes ne suffisait pas à empêcher ce changement.
Et on retrouve le même raisonnement, mais on en a déjà parlé à propos de la GPA, hein, sur le fait d'inscrire à l'état civil l'enfant sous le nom des parents qui l'élèvent, et c'est exactement le même type de problématique. C'est instructif, cette affaire du transsexualisme, sur deux choses, parce que il faut reconnaître, à l'époque, il y a eu un certain nombre de réserves doctrinales qui ont été émises, alors certaines d'ailleurs, qui paraissent avec le temps un peu dérisoires sur le mode, mais si on ouvre cette porte, la disponibilité de l'état des personnes disparaîtra, puis tout le monde fera ce qu'il voudra de son sexe, comme si tout le monde avait envie de changer de sexe, ce qui reste une possibilité, mais enfin, a priori, c'est pas le désir de tout un chacun, donc ce risque paraissait relativement faible. Et l'autre enseignement, c'est que lorsque le juge est audacieux et qu'il écarte finalement une règle française en invoquant une jurisprudence supérieure, ce n'est pas lui qui le fait d'office, c'est que des justiciables lui demandent de le faire. Et le juge doit prendre position ici sur quid de la loi française, sur l'état civil et de sa conformité avec une règle, l'article 8 de la Convention européenne qui est au-dessus, et on demande au juge d'arbitrer, il a qualité pour ce faire, et ce n'est pas lui qui d'office décide de ne pas appliquer la règle. Il est dans son rôle à trancher ce conflit, même s'il est tranché dans un sens qui peut-être qui peut justifier une discussion que conduira la doctrine. Tout ceci pour dire que le pouvoir créateur du juge ne signifie pas gouvernement des juges, et en tout cas abus de pouvoir, c'est déjà aller plus loin que de poser cette question. Il est donc temps d'aller plus loin. Alors, le pouvoir du juge, le gouvernement des juges, c'est un thème que nous avons abordé déjà ensemble. Ça ne sert à rien de parler deux fois du même sujet, surtout si c'est pour dire la même chose. Non, ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour évoquer, pour montrer, enfin pour parler, approfondir la question de la jurisprudence, c'est de montrer que cet outil, qui est une nécessité, peut poser un certain nombre de difficultés. Et c'est de cela dont nous voulons parler aujourd'hui. Nous avons identifié deux difficultés qui sont souvent évoquées par la doctrine d'ailleurs, et également en pratique. Première difficulté, c'est la rétroactivité de la jurisprudence. Nous avons vu ce qu'elle est, mais il faut voir maintenant d'où elle vient et quelles difficultés elle pose. Et l'autre difficulté, c'est ce qu'on pourrait appeler le concours entre le législateur d'un côté, la loi et la jurisprudence. Si le juge a un pouvoir créateur, il se peut que ce pouvoir créateur crée un conflit avec le pouvoir d'initiative du législateur et que ces deux-là, de temps en temps, se disputent. Donc voilà les deux thèmes que nous allons étudier successivement. La rétroactivité, tout d'abord, avant de voir les conflits entre la loi et la jurisprudence. Alors, sur la rétroactivité, nous avons vu ce qu'est la rétroactivité de la jurisprudence. D'où vient-elle, cette rétroactivité? Puisqu'au fond, quand même, la règle, c'est que l'article 2, Code civil, les lois ne sont pas rétroactives. Voilà que la jurisprudence qui complète la loi, elle, est rétroactive. Comment se fait-ce?
Eh bien, imaginons qu'on ait une solution jurisprudentielle qui soit rendue dans le silence ou pour compléter la loi. Imaginons, nous sommes le 1er janvier 2020 et il y a un litige sur un point de droit, quel qu'il soit, où on a une solution jurisprudentielle rendue dans le silence de la loi, mettons. Ce litige éclate et vous vous renseignez sur, en réalité, comment la jurisprudence traite ce litige, et vous avez donc une solution à l'esprit, la solution qui prévaut à cette époque-là, 1er janvier 2020. Sauf que le temps que vous atteigniez la Cour de cassation, en réalité, on n'est plus le 1er janvier 2020, mais on est le 1er janvier, j'en sais rien, 2025.
Pardon, je vous interromps, Antoine, mais oui. Ça ne nous dit pas d'où vient la rétroactivité.
Et
D'où vient la rétroactivité? Elle vient quand même du fait que la jurisprudence n'est pas une source officielle.
Voilà. Bien sûr.
Si elle apporte, c'est qu'en fait, ce que dit le juge de la loi est censé s'incorporer à la loi. Donc ce que dit le juge de la loi
est réputée entrer en vigueur au jour où la loi interprétée est elle-même entrée en vigueur. Donc si j'interprète en 2020 un texte de 1804, là, mon interprétation de 2020 est censée valoir depuis 1804. Bon, ce n'est pas très grave, la plupart des gens ne sont plus sur cette terre, mais enfin, il en reste quand même quelques-uns. Voilà, donc ça peut être gênant. Et alors, vous nous disiez...
Si vous aviez une solution jurisprudentielle, certes, elle était réputée entrer en vigueur, cette interprétation, en même temps que le texte, enfin l'entrée en vigueur de ce texte-là, certes. Mais si on reprend 1er janvier 2020, on arrive devant la Cour de cassation, mettons 1er janvier 2025. Bon, mettons. Et donc, le 1er janvier 2025, la Cour de cassation, quand elle rend sa décision, elle opère un revirement de jurisprudence. Donc, quelle que soit votre situation, en fait, au moment où les faits se sont réalisés, en réalité, il y avait une autre jurisprudence qui était appliquée. Et donc là, vous avez une nouvelle décision de la Cour de cassation sur votre cas à vous, qui s'applique par nature rétroactivement. Et en réalité, au moment où vous avez la décision, vous avez un problème de rétroactivité, d'un revirement de jurisprudence qui s'applique à votre situation. Alors même qu'au moment de votre situation, la Cour de cassation décidait autrement.
Oui, mais est-ce que c'est si grave, finalement ? Quand on raisonne en termes de responsabilité, et j'ai en tête l'exemple de l'amiante dont j'ai déjà parlé, si la jurisprudence... Alors, on sait que sur l'amiante, la jurisprudence a reconnu le préjudice d'anxiété, et elle ne l'a pas reconnu tout de suite. Mais au fond, si elle change d'avis en 2015, par rapport à ce qu'elle décidait en 2010, pour des faits qui remontent à 1990, est-ce qu'il est vraiment choquant qu'en 2015, la jurisprudence change d'avis sur ce qu'elle estimait que les industriels devaient faire en 1990. De toute façon, le revirement n'aurait pas eu d'incidence sur le comportement volontaire d'individus, mais qui n'était pas sans anticipation, volontaire d'individus qui, de toute façon, n'avaient pas anticipé la question de leur responsabilité, ne s'étaient pas souciés de la question. Donc, il me semble que l'évolution de l'appréciation jurisprudentielle à l'égard de faits, ici l'utilisation de l'amiante, dont on connaît les effets, à l'égard de faits qui se sont déroulés sans que personne ait anticipé et réfléchi à la question de la conformité au droit, ne paraît pas spécialement choquant.
Oui, ça ne pose pas vraiment de difficulté ici. Il y a peut-être une différence lorsque les individus vont anticiper l'application d'une solution jurisprudentielle. Par exemple, lorsque la Cour de cassation, on le sait par sa jurisprudence plus ou moins constante, imaginons, va valider une stipulation contractuelle, une clause, quelle qu'elle soit. Eh bien, imaginons qu'au moment où cette jurisprudence a cours, les rédacteurs d'actes stipulent dans les contrats...
Les rédacteurs d'actes, ça peut être les notaires, être les avocats qui rédigent des contrats et qui sont supposés les rédiger conformément. Ça, c'est important quand même. Oui. Rédiger, quand on est professionnel du droit, on doit écrire conformément à l'état du droit. Et pour écrire quelque chose qui est conforme à l'état du droit, il ne faut pas se contenter d'aller lire les textes, il faut que ce soit conforme à l'état des règles telles qu'elles sont interprétées en jurisprudence.
Et là, la difficulté, c'est que si effectivement, pour rédiger un acte conformément au texte et à l'interprétation des textes par la jurisprudence, on met cette clause, on considère, puisque la jurisprudence le considère, que cette clause est valable. Bon, très bien. Et 5 ans plus tard, un litige survient et la Cour de cassation, donc le litige va jusqu'à la Cour de cassation, sauf que à ce moment-là précis, la Cour de cassation change de jurisprudence et donc finalement on se retrouve à ce moment de la stipulation de la clause que les individus pensaient comme étant valable au regard du droit positif et de son interprétation par la jurisprudence. Là, pour le coup, si ça ne posait pas de problème pour la responsabilité, ça en posait un peu plus dans la matière contractuelle où il y a véritablement des prévisions légitimes des acteurs du droit et des individus de manière générale.
Oui, alors est-ce que c'est effectivement le vrai sujet est là, hein. C'est-à-dire que si on a caler son comportement. Si on a anticipé en l'état du droit tel qu'il est interprété en jurisprudence, c'est certain que les anticipations sont forcément déçues. Si la jurisprudence change, on ne peut pas prévoir les revirements. Donc, effectivement, dans le domaine des actes juridiques, des contrats, la question des revirements est réellement problématique. Est-ce que le droit est désarmé par rapport à cette situation ? Est-ce que le droit dit « c'est tant pis pour vous » ? Est-ce qu'on a des petites soupapes ?
Non, le droit évite généralement d'abandonner les gens à des injustices. Et d'ailleurs, on a un mécanisme qui est le mécanisme de la prescription, qui est l'institution sans doute la plus importante du Code civil selon l'un de ses rédacteurs, qui permet en fait de contrôler tout ça. C'est-à-dire, et surtout depuis qu'on a réduit la prescription de 30 ans à 5 ans, c'est-à-dire que les actions nouvelles que vous pourriez envisager à la suite d'un revirement de jurisprudence, que ce soit à la suite d'un contentieux que vous avez déjà eu ou un contentieux que vous avez eu envie d'avoir mais sur lequel vous n'aviez que peu d'espoir, Son contenu dans un délai de 5 ans qui est le délai pour agir. Un délai légal, standard.
Oui, alors pour faire le lien avec ce que la séance sur les normes individuelles, on a vu que les normes individuelles étaient quelque part frappées d'une désuétude par ce mécanisme qui est la prescription. Et comme vous l'avez bien rappelé, Étienne, le fait que... Non mais les débats en fait... Désolé, je suis un peu décousu, mais les débats sur la rétroactivité des revirements de jurisprudence ont été extrêmement vifs au début des années 2000. Mais la prescription à l'époque était de 30 ans. Bon, comme on a ramené la prescription à 5 ans, le jour où intervient un revirement de jurisprudence, généralement il faut 5 ans, hein, une décision de première instance, une décision d'appel, une décision de la Cour de cassation. Donc quand là, le revirement intervient... au fond, les faits qui sont antérieurs au revirement ont tous plus de 5 ans. En tout cas, tous ceux à propos desquels on pourrait invoquer le revirement, on va s'apercevoir qu'en réalité, 5 ans se sont déjà écoulés, de sorte que les faits sont couverts par la prescription. Mmh. Ce que je pense qu'on peut peut-être ajouter, parce qu'on dit souvent du mal des normes supralégislatives, c'est que même si on n'était pas dans cette hypothèse, il est probable que si des droits fondamentaux se trouvent menacés par l'effet de ce revirement, on puisse les faire valoir. On l'a vu, ça a été jugé, bon, c'est un peu compliqué, mais enfin, c'est déjà important de retenir, de savoir que cette soupape existe également en dehors du cas de la prescription. Si le revirement et sa rétroactivité portent atteinte notamment au droit au procès équitable, mais on peut imaginer que d'autres droits fondamentaux soient concernés, et notamment le respect des biens, l'article 1er du protocole additionnel, on peut imaginer que ces dispositifs seront utilisés pour cantonner les conséquences les plus excessives de cette rétroactivité. Mais vous voyez, c'est pas simple. Et pourtant, on a besoin de jurisprudence. Et voilà, le droit crée ses propres difficultés, mais trouve en lui-même les moyens de les résoudre, en tout cas de les surmonter. L'autre difficulté que crée la jurisprudence est, encore une fois, ce n'est pas une affaire de gouvernement des juges. Hein. Je pense que c'est quelque chose d'inéluctable. Et on va le voir sur une affaire, d'ailleurs, qui n'est pas une affaire de, finalement, tellement de gouvernement des juges. Le fait que le juge ait un pouvoir créateur crée une situation de concours entre loi et jurisprudence. Et pour illustrer ce problème de concours, nous avons une jurisprudence qui est emblématique, qui est la jurisprudence Perruche. Je suis désolé, je suis un peu long, mais juste pour dire une chose qui est importante. On ne va plus regarder la question de savoir est-ce que le juge peut dépasser la loi au nom de principes fondamentaux. On en a déjà parlé. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de montrer que le législateur peut, en l'état d'une jurisprudence, décider d'intervenir pour combattre la jurisprudence. Et c'est dans ce sens-là qu'on veut aujourd'hui présenter le concours. Et la jurisprudence Perruche est précisément une excellente illustration de ce que la jurisprudence peut être combattue par la loi. Bon, ouf, j'ai été beaucoup trop long. Qui débute sur cette affaire Perruche
je vais débuter Étienne. Très rapidement sur cette excellente mais très tragique affaire Perruche du 17 novembre 2000, où, très synthétiquement, vous avez une femme enceinte. Cette femme enceinte va faire une échographie. Le radiologue ou l'échographe se trompe dans son diagnostic, ne voit pas le problème va s'avérer majeur. La femme accouche, l'enfant est handicapé. Que se passe-t-il? Elle cherche réparation et, encore une fois, très rapidement, mon collègue précisera, la Cour de cassation fait droit à la réparation de tous les préjudices nés du handicap. Et là-dedans se trouvent diverses choses qui vont poser problème.
Oui, donc, qu'on se comprenne bien, l'erreur de diagnostic par l'échographe justifie pour la Cour de cassation l'indemnisation et une indemnisation à hauteur de l'ensemble des difficultés liées au handicap. Et là, on n'est pas les seuls, mais la doctrine se dit il y a un bug.
Oui,
et il faut dire des choses simplement.
Oui, effectivement, il y a un problème. Parce qu'en réalité, ce qu'on comprend, c'est que les juges du fond avaient refusé d'indemniser les préjudices subis par l'enfant parce que, bon, sans rentrer dans la responsabilité civile, mais ils avaient considéré qu'ils n'étaient pas en lien de causalité avec le fait générateur qui était la faute de la personne qui avait fait le diagnostic, cette échographie. Ce qu'on comprend, qu'en réalité, ici, le handicap de l'enfant est né de la rubéole. Or, ce n'est pas la faute du médecin qui a engendré la rubéole. La rubéole est là. La faute du médecin, c'est de ne pas avoir détecté cette rubéole. Donc, quand finalement, les juges du fond refusent la réparation du dommage subi par l'enfant, au titre de ce handicap, hein, bien sûr. Et en réalité, ce que fait la Cour de cassation, c'est que la Cour de cassation, elle considère qu'il faut qu'il y ait réparation des dommages, et qui est responsable, c'est le médecin qui a fait l'échographie. Donc ce qu'on comprend, mais qui n'est pas dit clairement par la Cour de cassation, c'est qu'il existe un préjudice du fait de naître, alors handicapé certes, mais comme tout de même un préjudice du fait de naître. Donc là, effectivement, assez violent, réaction.
Oui, ce qui est le. Enfin, c'est une affaire que c'est à la fois simple à concevoir et c'est pas si simple que ça à expliquer. Voilà, mais c'est de dire le. Si l'échographe ne s'était pas trompé, oui. Eh bien, la mère eût été en mesure d'interrompre volontairement la grossesse. Ce que d'ailleurs, dans cette espèce-là, elle avait, je crois, oui, fait savoir. Dit, oui. Donc, c'est ça le préjudice. Alors, si on dit que du fait de l'erreur, il y a un préjudice qui est l'équivalent du fait d'être né. Et d'être né handicapé, ça veut dire naître avec un handicap, mais naître
oui,
est un préjudice. Voilà. Et ça, bon, enfin, vous l'avez très bien dit, mais je pense que c'est pas mal de le dire plus tard. Mais c'est parce que c'est relativement compte. Mais c'est, voilà, c'est à la fois simple et en même temps, c'est pas si simple que ça. Et c'est. Voilà, si on va plus loin. Donc c'est l'occasion, quand on va plus loin, de comprendre que dire des choses n'est pas toujours si simple que ça. Bref, donc tollé. Ce qui est intéressant, c'est que les. Le tollé vient évidemment des échographes qui voient leur responsabilité s'accroître considérablement, donc leur prime d'assurance exploser, donc, et voir des assureurs qui refusent de les assurer. Et puis également les familles d'enfants handicapés qui n'admettent pas l'idée qu'on leur vienne en aide au nom de l'idée que leurs enfants sont un préjudice, ce qui pour elles n'est pas acceptable. Et que se passe-t-il ensuite? Séquence 2.
Séquence 2, loi du 4 mars 2002, article 1er. Il n'est pas de préjudice du seul fait de naître. Donc le législateur entend la plainte des échographes, des parents d'enfants handicapés qui ne voient pas dans le seul fait d'être handicapé un handicap et un préjudice surtout.
Donc, la loi casse la jurisprudence.
Oui, et ça ne s'arrête, ça ne s'arrête
et
pas
la
là.
Loi, là. Et ce quand même, c'est que la jurisprudence est critiquée, mais la doctrine, toujours elle, également, est assez nombreuse à critiquer cette loi. On la qualifie, oui. On l'a vu tout à l'heure en faisant un peu le tour des commentaires. Alors ça y va, loi démagogique. Enfin, bon, on a le droit à tous les qualificatifs habituels. Bon, le fait est que cette loi a été écrite pour casser la jurisprudence Perruche. Et donc, on l'a appelée la loi anti-Perruche. Et là, on se doute que quand on rentre dans ce petit jeu de concours, et là, on en voit la version, je dirais, un peu perverse, parce qu'on a eu des versions plus réussies, celui qui a été battu va avoir le dernier mot. Donc, c'est bien comme ça que ça s'est passé. Donc, après la séquence 2, loi anti-Perruche, on a séquence 3, la jurisprudence anti-loi Perruche.
Alors, effectivement, pour expliquer brièvement ce qui se passe, c'est qu'en réalité, on comprend qu'après l'arrêt Perruche, donc du 17 novembre 2000, tous les parents qui ont vu la naissance d'un enfant handicapé, alors il faut bien faire attention, d'un enfant né handicapé, pas du fait de l'erreur, mais du fait l'enfant est né parce que l'erreur de diagnostic ayant été commise, ils n'ont pas pu avoir le choix d'éventuellement avorter. Bon, passons évidemment sur les problèmes polémiques que ça pourrait poser. En tout cas, après cette jurisprudence, entre le 17 novembre 2000, l'arrêt Perruche, et la loi du 4 mars 2002 qui brise la jurisprudence Perruche, qu'est-ce qu'on fait pour toutes les instances qui ont été introduites entre ces deux dates? Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces... Est-ce qu'on leur applique? Alors, on ne peut pas leur appliquer, évidemment, la loi du 4 mars 2002. Et est-ce qu'on leur applique...
Pas, évidemment, parce qu'elle n'est pas rétroactive.
Parce qu'elle n'est pas rétroactive, pardon, oui, effectivement.
Non, mais je ne suis pas précis.
On déroule le fil. Hein.
Et donc, effectivement, on se retrouve avec un problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces instances? Et la Cour de cassation va décider de ne pas appliquer, même si, effectivement, la loi n'avait pas d'effet rétroactif, elle décide de ne pas appliquer. Et elle le fait comment? Elle le fait grâce, effectivement, à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le droit de propriété. Alors bon, simplement parce que cette jurisprudence Perruche avait fait naître chez ses parents une espérance légitime de créance. Et donc, on ne pouvait pas, effectivement, remettre en cause cette espérance légitime de créance.
Alors, pour être parfaitement complet, mais c'est exactement ça. C'est simplement l'espérance légitime est considérée comme un bien par la Cour européenne des droits de l'homme, et le respect des biens qui est consacré par l'article 1er du protocole additionnel justifie le respect de cette espérance légitime. Et donc, quelque part, la Cour de cassation sauve sa jurisprudence pour tous ceux qui avait pu s'en inspirer pour commencer un procès. Oui, Étienne, vous voulez ajouter un...
Pour tous ceux, mais seulement ceux qui s'en sont inspirés entre-temps.
Entre-temps, oui, entre-temps, bien sûr. Entre-temps. Et donc, on voit que voilà, cette situation de concours peut devenir relativement conflictuelle. Et finalement, je dirais que ce que nous révèle cette affaire, mais plus généralement la jurisprudence, c'est que le droit est bien la science de toutes les conflictualités. Voilà, me semble-t-il, un petit mot de conclusion qui nous amène tous les trois à vous dire au revoir, merci, merci et à très bientôt.
Merci. Au revoir. Bientôt.